Bien, bonjour à tous. Et j'espère que ce début de formation de 3 jours va surtout être pour vous l'occasion de formuler des questions. Et je me suis posé la question avant de venir, de dire mais que vais-je donc leur dire sur le sujet ? D'abord que je vais leur dire qu'ils ne sachent pas déjà, parce que vous avez tous déjà beaucoup de connaissances. En plus, comme l'a rappelé Stéphane, un des enjeux, et on a vu tout à l'heure que dans les interventions qu'il y a eu, ce n'était pas chose facile, un des enjeux c'était d'essayer d'aborder ces questions en suspendant pour un moment nos jugements, nos convictions, nos opinions sur des sujets aussi sensibles que laïcité et discrimination. Vous avez vu que dans mon intitulé d'intervention, j'ai mis laïcité au pluriel, car évidemment, il y a plusieurs conceptions de la laïcité qui sont en tension. Ça, vous le savez, on peut le vérifier chaque jour. Et c'est une des difficultés aussi, à l'origine, des tensions dans le travail, dans les établissements scolaires. Alors, comment aborder ces questions dans la mesure où c'est un début de formation ? Je me suis dit que, dans le fond, le mieux serait de vous parler d'une recherche en cours que mon laboratoire, le laboratoire éducation, culture, politique et l'IFE conduisons sur ces questions-là. Vous parlez de cette recherche parce que c'est une façon de s'interroger sur comment peut-on aborder ces questions d'un point de vue de chercheur. Moi, je n'ai pas de prescription à produire, de « il faut » et « on doit », mais par contre, j'ai beaucoup de questions auxquelles j'essaye de trouver quelques réponses en allant interroger le terrain. Et quand je disais des « il faut » et « on doit », c'est une des caractéristiques de la période que d'avoir beaucoup d'idéologie, beaucoup de prescriptions sur ces questions, mais à mon avis encore assez peu de production de connaissances issues d'enquêtes de terrain. Et c'est pour ça que nous y essayons, c'est compliqué. Et voilà, j'avais envie de vous parler de cela. Donc l'enquête internationale en cours s'intitule « Religion, discrimination et racisme en milieu scolaire ». Et le sous-titre est « Entre prescrits et réels, quels ajustements dans le travail, selon quels principes de justice ?» Alors vous voyez que déjà dans le titre de la recherche, il y a beaucoup d'éléments, et surtout un élément qui nous semble caractériser notre enquête, c'est de partir du travail des enseignants, mais pas seulement des enseignants, aussi des chefs d'établissement, des CPE, de tous les professionnels qui ont à voir avec l'éducation, voire élargir aussi la question aux parents d'élèves. Alors, pour aborder cette question, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Et je vais essayer de préciser 6 constats qui nous semblent constituer le contexte dans lequel se situe notre recherche. Le premier constat est le fait que nous sommes dans une société très sécularisée. Tout à l'heure, le terme de sécularisation a été beaucoup employé, mais sans être défini. Alors, je rappelle que la sécularisation, c'est seulement le fait que la domination de l'influence religieuse n'existe plus ou soit amoindrie sur les institutions, sur la vie sociale d'une façon générale. Donc le premier constat, c'est qu'on est dans une société très fortement sécularisée et avec une situation, comme le montre l'enquête d'opinion Wingallup International, une situation en France où les non-croyants et athées convaincus sont dominants. Alors cette enquête a été faite en 2012 et en 2015 sur un grand nombre de pays, comme vous pouvez le voir. Et même s'il y a des petites variations, si on ajoute les non-croyants et les athées convaincus, on voit qu'en France, ils sont majoritaires. Donc ça me semble important de partir de cela pour repositionner aussi la question des religions. qui à la fois sans doute se pose peut-être avec moins de force dans une société très sécularisée où la majorité des gens se disent non-croyants ou athées, et en même temps avec beaucoup d'acuité, parce que justement il va y avoir la tension entre ceux qui se revendiquent d'une religion, d'une croyance, et cette majorité qui estime ne pas avoir de croyance, voire être athée. Si je reviens à mes constats, deuxième constat, le fait que notre société, comme la plupart des sociétés ouvertes, est une société caractérisée par le pluralisme religieux et culturel. Alors, ça nous semble important de le poser comme un fait. C'est pas un choix, c'est pas une opinion, c'est un fait, tout simplement, que l'école, comme d'autres institutions, a à prendre en compte. Troisième constat, le fait qu'il y a eu une reconnaissance, certes tardive, de l'existence de discrimination à fondement ethno-racial. Alors la première étape de cette reconnaissance, étape qui a été très politique, puisque c'est le Haut Conseil à l'intégration qui a rendu un rapport en 1998 qui fait le constat lui aussi de cette discrimination. Et ce rapport a été donné donc au Premier ministre qui ensuite en a tenu compte. Et depuis, l'action publique se développe pour lutter contre ces discriminations. Et l'expression importante, là, lutter contre les discriminations montre qu'à travers ce rapport, comme le montre Didier Fassin, il y a eu un glissement. Un glissement de la lutte pour l'intégration, une lutte pour l'intégration qui était rapportée à l'individu plus ou moins capable de s'intégrer, à la lutte contre les discriminations. Et lutter contre les discriminations, ça veut dire poser la question de quel est le poids des institutions, des organisations dans l'existence de ces discriminations. Donc à travers ce rapport, on déplace le projecteur en quelque sorte de l'individu responsable de son intégration aux institutions et aux organisations qui sont censées ne pas produire de pratiques ou d'organisations discriminatoires. Ce pluralisme, la reconnaissance de l'existence de discrimination, si on regarde à l'échelle européenne comme l'a fait Antoine Matt, on peut observer que, en fait, l'action publique a porté plus sur les droits, le droit des individus, que sur les situations. Or, plus on avance dans la connaissance de ces questions et plus on fait le constat que ce sont souvent les situations qui sont discriminantes, même si des droits sont attachés à l'individu et qu'il y a eu des avancées concernant les droits qui sont incontestables, il y a malgré tout les situations qui sont souvent sous-estimées dans le rôle qu'elles peuvent avoir pour produire des discriminations. Alors cela, bien sûr, a eu des conséquences aussi du côté de l'école. Puisque quand on a changé le rayon du projecteur sur les pratiques discriminatoires, quand on a porté une volonté politique de lutter contre les discriminations, l'école s'est trouvée, elle aussi, en première ligne. L'école n'était-elle pas pourvoyeuse de discrimination. Cela correspond aussi à un moment de l'étude des établissements scolaires, particulièrement dans le cadre de la sociologie de l'éducation, qui depuis les années 80 s'est intéressée au fonctionnement des établissements scolaires et qui a montré qu'il y avait ce qu'on appelle des effets, effet établissement, effet maître. Disons que pendant les années 60-70, la sociologie de l'éducation s'est intéressée à ce qu'il y avait avant l'enseignement et ce qu'il y avait après. Est-ce que les élèves venant de positions sociales X ou Y, avant l'école, se retrouvaient après l'école dans des positions identiques? Et Bourdieu a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Dans les années 80-90, on commence à ouvrir la boîte noire, comme on le dit, c'est-à-dire à rentrer dans les établissements et à s'intéresser à ce que produisent les enseignants et les établissements, notamment en matière de difficultés scolaires, mais aussi de discrimination. Donc les enseignants se trouvent sur la sellette. Quatrième constat, il y a l'expression de demande de reconnaissance de groupes minoritaires, y compris à l'école. Alors ces demandes de reconnaissance, elles ont passé en France beaucoup par la voie mémorielle. Vous savez qu'il y a eu une succession de lois mémorielles depuis les années 80 et qui ont répondu la plupart du temps à des demandes de reconnaissance de sous-groupes de la population. En même temps, concernant les religions, il y a à la fois un mouvement, disons, un peu contraire. D'un côté, il y a un plébiscite de la laïcité. Toutes les enquêtes d'opinion depuis des années montrent ce plébiscite. Et en même temps, il y a une revendication de reconnaissance dans l'espace public des religions. Pourquoi est-ce que cela fait tension? Alors, une hypothèse que j'avance, c'est que souvent, ça fait tension parce qu'il y a des confusions sur la notion d'espace public. Et qu'on est, on a tendance à élargir l'espace de l'État qui est censé être neutre à l'espace sociétal, la rue, les magasins, tout ce que vous voulez, où on vit, et qui n'est absolument pas régi par le même régime, notamment juridique d'ailleurs, mais pas seulement. Donc cette expression de demande de reconnaissance et de groupe minoritaire est là aussi un constat, et l'école est sommée d'y répondre. Elle est sommée d'y répondre d'une certaine façon, par exemple, dans le référentiel de compétences des enseignants, il est indiqué que les enseignants doivent prendre en compte la diversité des élèves. Alors j'ai étudié l'évolution de ce référentiel des compétences, puisqu'il y en a eu trois, et il est très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de diversité. Dans le premier référentiel, c'était surtout la diversité à la fois sociale et culturelle. Tandis que maintenant, on parle beaucoup plus de diversité cognitive. Donc finalement, c'est la diversité du fonctionnement du cerveau qui serait plus à prendre en compte, mais il y a aussi la dimension culturelle, mais qui arrive en second, alors qu'avant, elle était mise beaucoup plus en avant. Cinquième constat, il y a une quantité de controverses et de débats publics qui concernent la laïcité et les discriminations, l'une étant liée à l'autre et inversement, mais pas toujours. Et ces controverses et ces débats publics arrivent aussi dans l'école. Elles arrivent aux enseignants, bien sûr, elles arrivent aux familles, elles arrivent aux élèves. Donc imaginez que l'école ne soit pas concernée par ces débats publics est purement illusoire. Et on peut même se poser la question de comment les enseignants font par rapport à ces débats et ces controverses. De quelle façon peut-être constituent-ils des ressources pour eux, des ressources argumentatives notamment? Mais ils sont aussi face à des élèves et à des familles qui, eux aussi, puisent dans ces controverses, dans ces débats, des ressources argumentatives. Donc l'école bunker qui serait isolée du monde et étrangère au débat public, particulièrement sur ces questions, qui touchent aussi au contenu d'enseignement, donc au cœur même de ce qui est censé faire l'école, la transmission d'une culture, on ne peut pas imaginer que l'école soit exonérée de ces controverses et débats. Dernier constat. C'est un constat de difficulté des professionnels de l'éducation. Alors, quand vous avez candidaté pour cette, vous êtes inscrit pour cette formation, Stéphane et l'équipe du Centre Alain Savary vous a demandé de présenter des cas éventuels qui vous concernaient. Et à la lecture de ce que vous avez écrit, on voit bien que il y a de nombreuses situations existantes qui sont variées et que les professionnels n'ont pas toujours connaissance ou ne construisent difficilement, disons, des stratégies d'action qui leur permettent de résoudre les questions auxquelles ils sont confrontés. Alors, je reviendrai sur ces difficultés. Alors, depuis le rapport de 1998 dont j'ai parlé, il y a eu une action publique qui s'est développée tout au long des années avec de multiples circulaires, justement, dans l'éducation nationale, indiquant aux enseignants ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Mais elles ont toutes été soutenues par une hypothèse que je formulerai de la façon suivante. Si l'école était plus juste dans le traitement des élèves, de leur famille, et si l'enseignement des valeurs de la République était plus intense, notamment à travers le socle commun, l'éducation morale et civique, les problèmes de vivre ensemble, de radicalisation religieuse seraient résolus. Bien sûr, c'est une hypothèse, la plupart du temps implicite. Mais en gros, on renforce l'enseignement des valeurs de la République, on renforce un socle commun de connaissances qui constitue une culture commune, et ainsi on produit un nouveau vivre ensemble, qui permet d'échapper à la question de la radicalisation, qui serait le principal problème que l'école aurait à affronter, ce qui est aussi une hypothèse implicite qui est peut-être à débattre. Du côté des professionnels, on peut voir qu'il y a parfois un certain désarroi. Un certain désarroi, bien que je souhaite rappeler, avant d'en parler, que les questions de laïcité et de religion n'occupent qu'une petite partie de l'activité des professionnels. Il faut quand même le rappeler, parce qu'à entendre les médias, on a l'impression que les enseignants sont en permanence mobilisés par ces questions et que, notamment, avec les parents d'élèves, il y aurait toujours ces questions. Une doctorante de Lyon 2, Samia Langar, qui étudie justement les relations avec les familles, entre l'école et les familles, sur les questions religieuses et particulièrement de l'islam, montre bien que de la part de ses parents, la religion n'arrive que bien, bien après bien d'autres problèmes. Bon, malgré tout, ce désarroi, il est constaté, il s'exprime par les enseignants, notamment par rapport à trois points que je vais développer un petit peu rapidement. Le désarroi par rapport à la multiplication des injonctions. Les injonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont nombreuses et elles portent sur des objets très différents. À la fois sur des contenus d'enseignement, avec parfois des disciplines d'enseignement nouvelles, quasiment, comme l'EMC, la montée de certains enseignements, j'en reparlerai, comme les éducations A, qui transforment le rapport aux disciplines académiques. La multiplication des injonctions porte aussi parfois sur des dispositifs. Il faut créer tel ou tel dispositif qui permette aux enseignants d'aider les élèves. Et là, on voit que la tension peut se poser entre, d'un côté, faire réussir tous les élèves et de l'autre côté, avoir une relation individualisée avec chaque élève pour l'accompagner tout au long de sa scolarité. Les deux ne vont pas de soi à mener ensemble. Le deuxième désarroi que je peux signaler, c'est autour de la question de l'interprétation des signes et parfois aussi de l'absence de signes. Il y a un mois, j'organisais ici avec l'IFE une formation sur les faits religieux à l'école et une collègue qui fait une enquête auprès d'élèves. Sous emprise, comme elle le dit, a montré que bien souvent, c'était quand il n'y avait plus de signes que la situation était le plus grave. Donc, quelle est l'interprétation des signes possibles? On voit bien aussi que la nature des signes est en question. Discret, ostentatoire. À partir de quel moment est-on discret ou plus discret? Est-on ostentatoire? Est-on ostentatoire? Ah, oh là, j'y arriverai pas. Ostentatoire. Un certain désarroi aussi par rapport à la notion de neutralité. Neutralité de qui? On l'a évoqué tout à l'heure, sur le plan juridique même, mais neutralité jusqu'où? Deuxième difficulté du côté des professionnels, deuxième thème, c'est le sentiment d'abandon en cas de difficulté. C'est un peu le règne du « débrouillez-vous pourvu que ça ne fasse pas de vagues ». Et certains professionnels disent se sentir isolés, très seuls, pour trouver des solutions à un problème qui concerne pourtant la collectivité. Troisième thème qui revient du côté des professionnels, c'est l'expression d'un manque ou d'un trop-plein de ressources. Alors, si vous vous amusez à faire la liste des ressources, vous en aurez le tournis. En même temps, les enseignants disent qu'il manque de ressources. Donc, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il y a en trop, ou plutôt pourquoi, même s'il y a beaucoup, on a l'impression que ça manque. Quatrième thème du côté des professionnels, c'est l'observation de beaucoup de bricolage sur le fil, comme ils disent parfois, pour trouver des solutions en cas de conflit, voire pour les inviter. Ces bricolages vont parfois jusqu'à mettre la scolarisation des élèves avant le principe de neutralité. Et on voit bien là qu'il y a un dilemme tout à fait caractéristique du métier. Faut-il d'abord scolariser ou faut-il d'abord faire respecter le principe de neutralité si l'exigence du respect de ce principe va à l'encontre de la scolarisation? Pour certains professionnels, dans certains lieux, ça se pose. Donc tous ces constats nous amènent à penser qu'il faut aborder ces questions de façon située. C'est-à-dire qu'on ne peut que difficilement comprendre les tensions qu'il peut y avoir et que je vais aborder maintenant si on se situe à un niveau de grande généralité. Il faut rentrer dans la spécificité des contextes. Alors, quelles tensions pouvons-nous identifier ? La première dont j'ai un peu parlé, c'est entre traiter des flux et individualiser, faire réussir tous les élèves ou accompagner chacun de façon dans sa scolarité, aider les élèves à avoir un projet individuel. On voit bien qu'en termes de posture de l'enseignant, cela n'induit pas la même chose. Ça n'induit pas la même chose non plus dans son organisation du travail, dans sa relation avec l'élève, avec les familles, avec les autres professionnels. Or, il y a cette demande de reconnaissance qui va plutôt dans le sens d'individualiser. Et ce n'est même pas seulement des questions de religion. Chaque élève a l'impression d'être un monde à lui tout seul dont il faut s'occuper en priorité. Et les parents ont souvent aussi l'attente qu'on doit s'occuper en priorité de leur chérubin, donc à qui il manque des ailes parfois malgré tout. Donc cette tension entre traiter des flux et individualiser va au-delà des questions de la laïcité ou des discriminations. Une tension également entre un système éducatif qui met la concurrence et la compétition au centre de son fonctionnement, compétition par le système de notation déjà, de sélection, concurrence entre les établissements de fait, et que on peut opposer à une autre logique qui est la logique de la coopération, dont on sait bien qu'elle est un des moyens de la prise en compte de l'altérité. Et là, pour une fois, les sciences humaines et sociales sont d'accord, qu'il s'agisse des sciences cognitives, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, toutes ces sciences convergent à montrer que les humains sont plus efficaces quand ils sont mis en situation de coopération plutôt que de compétition, contrairement à un sens commun qui est fondée sur des années d'un système qui fonctionne plutôt sur la compétition, que ce soit au plan économique ou au plan institutionnel. Donc, deuxième tension. Troisième tension que j'identifie comme, d'une part, il y a la montée des éducations A. éducation à l'environnement, éducation à la citoyenneté, éducation à 36 choses. Et d'autre part, les disciplines, mais aussi la logique des compétences. Or, dans ces trois termes, il y a des rapports à l'individu et à l'universel qui sont différents. Les disciplines académiques ont une ambition d'universalité. Les éducations A ne sont pas toujours référées à des disciplines académiques. Les disciplines qui ont cette ambition à l'universalité peuvent s'opposer aux compétences qui, elles, sont rattachées à l'individu. Donc on voit qu'il y a des questions socialement et politiquement vives que les éducations A essayent de traiter, de prendre en compte. C'est une façon d'actualiser le curriculum scolaire. Mais en même temps, cela rentre en tension avec les disciplines existantes et avec la logique des compétences qui est désormais la logique prescrite. Finalement, la question est, quel est le support à privilégier du point de vue des professionnels pour fabriquer un bien commun et favoriser ce qu'on appelle le vivre ensemble? Pendant longtemps, on a pensé que c'était les disciplines académiques. Les savoirs universels pouvaient faire culture commune et bien commun. Désormais, on pense plutôt que ce sont les compétences. Du point de vue des enseignants, passer de l'un à l'autre ne va pas de soi et il y a tension entre les deux. Troisième tension entre logiques, c'est la question des dispositifs. Le constat a été fait notamment par Anne Barrère, mais bien d'autres aussi, sur le fait qu'on est à l'ère de la montée des dispositifs. On fait des dispositifs pour tout. Dès qu'il y a un problème, on crée un dispositif. Et d'après Anne Barrère, ces dispositifs sont faits en quelque sorte de façon à éviter les débats de justice. On ne se pose plus la question de qu'est-ce qui est juste, mais on se pose la question de comment faire fonctionner le dispositif. Le dispositif lui-même pouvant transporter en lui une certaine conception de la justice, mais il suspend le débat, et c'est la force du dispositif. Qu'il s'agisse des dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, qu'il s'agisse des dispositifs de l'art à l'école, enfin, elle énumère beaucoup de dispositifs. Or, quand on rapporte cette multiplication des dispositifs à la question de la laïcité et des discriminations, comment être dans la logique de lutter contre les discriminations si on suspend les débats de justice? Cinquième tension, l'injonction à l'impartialité et à la neutralité d'un côté qui est faite aux professionnels, d'un côté, et d'un autre côté, la promotion des valeurs de la République. Il n'est pas toujours clair, y compris pour des professionnels, de trouver la ligne de séparation entre la neutralité individuelle qui est requise de leur part et le fait de ne pas être neutre du tout quand il s'agit de promouvoir les valeurs de la République. Il y a là aussi quelque chose qui est source de dilemme selon les sujets qui sont étudiés. Enfin, dernière tension que j'évoquerai, et qui part d'une réflexion qui a été observée dans d'autres domaines que l'éducation, mais que je rapporte à l'éducation, c'est que certaines questions publiques, par exemple faire réussir les élèves ou éviter l'échec scolaire, comme on dit, sont transformées en problème du public. Ça devient le problème des élèves musulmans, et particulièrement des garçons, encore que maintenant les filles, ça commence à venir, des étrangers, etc. Et cette façon de transformer des questions publiques en problèmes du public, ça conduit à maintenir des traitements discriminatoires. Puisqu'on va se focaliser non plus sur faire réussir, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire réussir, mais on va se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut faire face aux élèves musulmans. Donc ça, ce sont des logiques différentes qui sont à l'œuvre actuellement dans la société, mais beaucoup aussi dans l'école. Donc à partir de ce constat factuel et sur ces tensions entre logiques, nous avons essayé de problématiser notre projet de recherche autour de deux idées. La première idée est le fait que la demande de reconnaissance est formulée souvent comme une exigence de respect, particulièrement chez les élèves, mais pas seulement. Mais en même temps, cette demande de reconnaissance de spécificité individuelle est associée à une attente d'un traitement égalitaire. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir une contradiction. Un traitement égalitaire qui ne tient pas compte de mes spécificités, je suis traité de façon égale à un autre élève ou à un autre enseignant, mais en même temps, je veux qu'on me reconnaisse comme spécifique. Et troisième élément de l'équation, c'est l'exigence de liberté individuelle qui n'a sans doute jamais été aussi forte que maintenant, d'où l'expérience assez difficile de la part des élèves dès qu'on essaye de porter atteinte à cette exigence de liberté individuelle. Donc on voit qu'il y a des attentes qui peuvent être contradictoires à certains moments et l'école en quelque sorte est censée répondre à tout ça. À la fois une demande de reconnaissance par la prise en compte de la diversité, par l'individualisation des apprentissages, mais en même temps de traitement égalitaire, mais aussi la reconnaissance des libertés individuelles. Donc comment les enseignants font-ils et les professionnels d'une façon générale entre ces orientations? Deuxième point. En général, quand il y a des manifestations de résistance à l'imposition de valeurs par l'État, les fameuses valeurs de la République à travers l'école, c'est interprété comme le signe d'une concurrence entre différents modèles normatifs, voire interprété comme un repli sur une position communautariste. Les élèves ne veulent pas faire la minute de silence, c'est la preuve qu'ils sont dans un repli communautariste. Récemment, il est question d'un tiers des enfants de familles de confession juive qui ne sont plus scolarisés dans l'école publique. C'est un signe de repli communautariste. Ça, c'est la façon courante d'interpréter ça. Nous proposons une autre voie qui est de dire, mais n'est-ce pas aussi une évolution plus libérale vers une conception plus libérale de l'État, qui est la conception anglo-saxonne, qui gagne la société française sous bien des aspects, mais y compris peut-être sous celle-ci, à savoir que les individus considèrent que l'État n'a pas à prescrire de valeurs. Donc à partir de cela, nous avons établi quatre hypothèses. La première hypothèse, c'est que nous assistons par le bas, en quelque sorte, à travers les pratiques sociales réelles, professionnelles, à une recomposition du modèle républicain par hybridation entre plusieurs principes de justice. On a le principe de justice civique hérité, je vais dire, qu'on connaît bien, mais il y aurait hybridation avec un modèle plus libéral, centration sur l'individu, refus d'un État fort, et un modèle communautarien, ce qui ne veut pas dire communautariste, centration sur une communauté d'appartenance. Deuxième hypothèse qui concerne, là, le rapport au savoir et le rapport à la vérité. Il nous semble là qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a un manque de formation sur les conditions de l'administration de la preuve et les conditions de la pensée, d'une pensée critique. Et faute de cette formation, qui nécessite notamment des connaissances épistémologiques pour les enseignants, les élèves ont de la difficulté à identifier différents régimes de vérité, ce qui peut être une source de développement, notamment du complotisme, de l'adhésion à des croyances qui viennent d'un peu partout, des rumeurs, avec le nouveau tam-tam moderne qui est Internet, et où le bouche à oreille vaudrait autant qu'une argumentation étayée, confirmée par une communauté scientifique selon des critères établis. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a, sur ces questions de religion et de discrimination, voire de racisme à l'école, une question liée à ceci, à la formation sur l'administration de la preuve, sur les différents régimes de vérité. Mais c'est une hypothèse. Troisième hypothèse, c'est que pour faire face aux tensions et aux conflits éventuels qu'elles peuvent générer, il y a la mise en place d'arrangements rabattus sur des dispositifs et ou des objets pour coordonner des logiques différentes, pacifier les situations en évitant le débat de justice. De justice au sens de principe de justice, pas de justice où on porte plainte, le résultat d'une plainte déposée. De principe de justice. Et ces arrangements, ils se construisent dans le quotidien, ils sont souvent clandestins et ils permettent aux enseignants de maintenir des situations qui soient des situations d'apprentissage. Les dispositifs, des objets qu'on brandit, certains peuvent dire « j'ai sorti la charte de la laïcité ». Voilà, on sort comme un gris-gris, j'ai sorti la charte de la laïcité face à un problème rencontré. Donc voilà, on pense que, toujours aussi dans l'esprit de ce qu'a développé Anne Barrère, il y a la production de dispositifs et d'objets pour refroidir les situations. Dernière hypothèse, c'est le rôle, elle porte sur le rôle des organisations du travail, puisque ces organisations du travail, en facilitant la coopération ou pas, peuvent rendre les établissements et les professionnels plus ou moins aptes à développer ce que Florent Champy appelle des pratiques prudentielles. Dans ces pratiques prudentielles, il y a la prise en compte des savoirs de métier, de l'expérience professionnelle. Il y a la prise en compte d'une éthique professionnelle et il y a la traduction située des prescriptions qui sont faites aux professionnels. Donc ce qui va être recherché, c'est la pertinence de cette traduction plus que des résultats immédiats et l'atteinte d'objectifs que l'on peut rendre visibles, ce qui là se situe plus dans une optique managériale. Donc, y a-t-il des organisations du travail qui favorisent ces pratiques prudentielles, qui sont le propre des métiers de service, qu'il s'agisse des infirmières, des médecins, des éducateurs spécialisés, mais aussi des enseignants? Alors, cela nous conduit à faire des choix méthodologiques. Le premier choix, c'est une approche pluridisciplinaire. Alors, j'ai dit qu'elle était internationale. Il y a effectivement des collègues québécois, suisses et brésiliens qui participent à cette recherche. Et pour nous, c'est important parce que justement, ils sont dans des situations tellement différentes des nôtres par rapport à ces questions de laïcité et de discrimination que d'avoir une même enquête menée dans différents pays va nous éclairer aussi sur notre propre réalité. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des historiens qui nous rappellent en permanence que bon nombre de questions que nous pensons et voir émerger maintenant existent en fait depuis longtemps. Ce qui nous aide à en comprendre aussi l'évolution et les enjeux. Il y a des philosophes, sociologues, didacticiens, psychosociologues. Tout cela parce que c'est un objet complexe et qu'on ne peut l'aborder sous un seul angle. Et sans doute est-ce une des difficultés des prescriptions actuelles, c'est que justement ça fasse un peu l'économie de cette complexité. Et pour ne pas en faire l'économie, une des conditions serait sans doute, ou est sans doute dans certains lieux, le fait que les professionnels en débattent. Deuxième choix, une enquête située. Située, c'est-à-dire de type socio-ethnographique, dans des collèges et des lycées. Alors, nous avons choisi le secondaire. Et dans trois régions, en PACA, Île-de-France et Rhône-Alpes. Alors, je devrais dire Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Troisième choix, se centrer sur l'activité, les situations de travail. Il s'agit d'essayer de comprendre ce que les enseignants font réellement, non pas ce qu'on leur demande de faire, non pas parfois toujours aussi ce qu'ils disent qu'ils font en essayant de coller à ce qu'on leur demande de faire, mais d'essayer de comprendre dans une dynamique temporelle ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'on l'inscrit dans la durée, qui est une donnée très importante, comment leur activité évolue dans la durée d'au moins une année scolaire, voire deux, par rapport à ces questions de religion, de laïcité, de discrimination. Se centrer sur les situations de travail, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'activité, l'action publique s'est beaucoup centrée sur les droits aux individus et peu sur les situations, alors qu'on sait bien que ce sont souvent les situations qui produisent des discriminations. Quatrième choix, étudier le rôle des dispositifs et des objets. Même dans des établissements où les enseignants disent qu'il n'y a rien à dire, si on s'intéresse aux dispositifs et aux objets, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup à dire. Donc c'est une façon d'entrer dans la question, mais c'est une façon aussi de vérifier l'hypothèse selon laquelle ces dispositifs et ces objets pourraient éventuellement être une ressource ou pas, parce que parfois ils peuvent refroidir des situations, mais à d'autres fois ils peuvent les réchauffer brutalement aussi. Et enfin, identifier les ressources mobilisées et construites. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à la fois beaucoup de ressources et que les enseignants disaient parfois manquer de ressources, surtout dans certaines disciplines. Ça, on commence à le voir. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les ressources réellement mobilisées par les enseignants. Et quand on dit ressources, on emploie le terme au sens très général. Ce ne sont pas des ressources pécuniaires, mais ce sont des ressources cognitives, des ressources de savoir, des ressources de dispositifs. Est-ce que le prescrit est vu comme une ressource ? La plupart du temps, non. Est-ce que le droit est vu comme une ressource ? La plupart du temps, non. Mais voilà, essayez de comprendre quelles sont les ressources qui sont déjà là et qui sont mobilisées, et comment sont-elles mobilisées, mais aussi les ressources produites et construites dans l'activité même. Alors, à partir de tout cela, nous sommes dans la phase de l'enquête exploratoire, donc n'attendez pas de moi des résultats définitifs, nous en sommes très loin, mais je peux seulement vous donner quelques pistes qui apparaissent à partir de 6 mois d'enquête exploratoire, donc on n'en est même pas au bout. Et donc c'est plutôt pour nourrir la réflexion que vous aurez pendant ces 3 jours. Une première piste porte sur le rôle très important du travail de catégorisation et du travail de définition des situations. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un problème d'interprétation des signes. Quand les enseignants doivent interpréter ce que fait un élève qui refuse de rentrer dans une église, par exemple, au nom de sa religion, dans quelle catégorie va-t-on mettre l'élève ? Comment va-t-on le qualifier ? Pour certains enseignants, c'est un élève turbulent qui, de toute façon, met le bazar partout depuis longtemps et qui, là, a saisi l'opportunité pour continuer de le faire et qui a entraîné quelques camarades. Pour d'autres, ils vont le mettre dans la catégorie enfant, élève, musulman, voire en voie de radicalisation. Donc on voit bien qu'il y a ce travail de catégorisation, mais qui ne vient pas de rien. De la même façon, la définition de la situation va être tout à fait importante. Ce n'est pas la même chose lorsque c'est, par exemple, l'enseignant seul qui explique aux élèves qu'il va falloir faire une minute de silence, qu'ils ont la possibilité éventuellement de ne pas la faire et de s'en retirer discrètement, mais qu'il y aura une minute de silence, à une situation où le chef d'établissement passe dans chaque classe et fait faire la minute de silence dans la classe. On voit bien là le poids de la situation. Deuxième piste, le fait que les catégorisations sont floues, font l'objet de négociations et d'ajustements permanents. Alors, je l'ai donné l'exemple de comment qualifier un comportement d'élève, mais on peut dire que ces catégorisations ne cessent d'osciller. Et elles oscillent en fonction du quatrième élément que j'ai indiqué là, que j'aurais dû mettre avant, du poids du contexte aussi, pour l'interprétation des situations. Selon la situation général, le contexte général dans lequel se situe l'activité des professionnels, la qualification de tel ou tel acte ou de telle ou telle parole de l'élève ne va pas prendre le même sens. Avant 2015 et après 2015, avant les attentats et après les attentats, avant Cologne et après Cologne, le même acte, la même attitude de l'élève va être interprétée différemment. D'où le fait que ces catégorisations, y compris celles qui apparaissent pourtant les plus institutionnelles, sont beaucoup plus floues que prévues et font l'objet de négociations entre professionnels. Tel élève avec un bandana va être qualifié par un enseignant de signe comme élève portant un signe ostentatoire, pas pour un autre. Donc ça peut être l'objet de négociations. Souvent c'est l'objet de rien du tout. C'est l'objet d'un non-dit, d'un silence, d'un implicite, par peur du débat, justement. Mais de toute façon, c'est l'objet d'ajustements permanents en fonction des situations. Mais également, le flou vient aussi d'un certain flou juridique, mais qui vous a déjà été exposé largement tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Donc l'activité des enseignants se situe dans la nécessité de produire en permanence des qualifications dans des contextes qui les amènent à catégoriser d'une certaine façon, et parfois le poids du contexte devient plus important que le poids de la culture professionnelle. Donc le poids du contexte, on voit bien que la même situation peut être réinterprétée à la lumière d'événements qui viennent de se dérouler. Cinquième piste, et ça c'est un élément que nous voulons creuser, c'est les effets de la culture propre à la discipline d'enseignement ou au métier du professionnel. On pourrait dire qu'il y a des habitus professionnels différents selon qu'on est professeur de mathématiques, d'histoire, de musique ou de PS, pour aborder la question de la laïcité ou des discriminations. Et dans ce début d'enquête, il nous semble que c'est certainement plus fort que ce qu'on avait imaginé. Donc nous souhaitons investiguer cette dimension de comment y a-t-il un lien entre une culture disciplinaire, au sens des disciplines académiques, des modalités d'enseignement liées à chaque discipline et l'activité de l'enseignant quand il y a des questions religieuses, de laïcité qui se posent. Sachant que beaucoup d'enseignants se disent incompétents parce que, pensent-ils, c'est une question pour les professeurs d'histoire et en lycée de philosophie. Autre piste, c'est le fait qu'il y a des gestes professionnels, des gestes de métier, qui sont jugés pertinents ou pas. Alors, juger pertinent ou pas par qui, déjà ? Est-ce que c'est par la hiérarchie ? Est-ce que c'est par les enseignants ? Par les élèves ? Et il semble que ces gestes professionnels ne relèvent pas que de l'individu enseignant ou autre professionnel, qu'il s'agisse d'un chef d'établissement ou d'un CPE. Mais ils s'inscrivent dans une histoire du métier et ils s'inscrivent dans des débats ou parfois des absences de débats. Mais ils s'inscrivent aussi dans la culture épistémologique des enseignants particulièrement. Et celle-ci semble un peu faible, et ce qui les met en situation sans doute difficile pour répondre aux interrogations des élèves. Alors, des gestes de métier, tout métier se traduit par des gestes. Qu'il s'agisse de faire une piqûre quand on est infirmière, qu'il s'agisse d'écrire au tableau quand on est enseignant, d'être auprès d'un élève, il y a de multiples gestes très précis. Hein. Mais derrière les gestes, il y a une conception du métier aussi. Et ces gestes sont souvent définis au cours de l'expérience et par discussion avec des collègues, aussi avec des pairs. Dernière piste, c'est l'importance des stratégies d'anticipation et de refroidissement. Stratégie d'anticipation, les enseignants connaissent bien leur métier, connaissent bien leurs élèves, connaissent bien leur établissement, et ils ont tout ça en tête quand ils préparent une activité pour les élèves. Et une partie de leur savoir-faire passe sur ces questions de religion, de discrimination, à anticiper les difficultés éventuelles. Donc cela veut dire qu'il faut prendre en compte la dimension établissement, car face aux mêmes problèmes, les enseignants ne vont pas trouver les mêmes réponses selon les établissements. Car selon les établissements, l'orientation de la politique locale, les ressources disponibles dans l'établissement, les solutions ne seront pas les mêmes. De même, il doit prendre en compte l'environnement socio-culturel aussi de l'établissement. Mais il y a aussi toute une part qui est visiblement à approfondir, c'est le rôle de la traduction des prescriptions, la traduction locale des prescriptions. La même prescription à prendre en compte la diversité ne va pas être traduite de la même façon selon les établissements. Enfin, cela veut dire de s'intéresser à l'activité de l'enseignant dans toute son ampleur temporelle. Non seulement au cours de sa carrière, et peut-être que les enseignants novices ne font pas la même chose que les enseignants expérimentés, mais également au cours de l'année scolaire, et on voit bien déjà dans l'enquête exploratoire à quel point le moment dans l'année est important pour comprendre ce que les enseignants font pour traiter un même problème. Et enfin, dans l'activité elle-même, l'activité qui ne saurait se réduire au face-à-face avec les élèves, mais qui a tout ce temps préparatoire, d'auto-prescription, et le temps ensuite de régulation, de réflexion à ce qui a été fait, et d'évolution aussi d'une pratique. Donc voilà les quelques pistes que nous avons pour le moment. Bon, nous disons que j'ai choisi de mettre en avant. Vous voyez que ça pose plus de questions, peut-être que ça n'en résout pour le moment. Mais c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche pour aborder une question comme celle-ci.